Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Ouais. Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a 100 ans, en 1924, c'était les Jeux Olympiques à Paris. Quelque chose me dit que vous êtes au courant. Mais c'était aussi la parution du premier manifeste du surréalisme, ce texte d'André Breton qui, du même geste, voulait changer la vie et transformer le monde. Et à bien y regarder, je pense que cette déflagration est toujours bien visible aujourd'hui. Du surréalisme, si l'on veut, on dira qu'il a 100 ans. Il en a 1000. Il en a 20 aussi bien, écrit Philippe Forest dans la réédition pour la Pléiade de ce texte qui a mis le feu aux poudres. Alors, s'il est aussi jeune qu'il est vieux, nous irons le voir au musée. Ça tombe bien, le Centre Pompidou a ouvert cette semaine une formidable exposition sur le surréalisme d'abord et toujours. Et puisque ce commencement dure encore, en allant au musée, nous allons prendre des nouvelles de notre monde d'aujourd'hui. Alors, allons-y avec nos invités Marie Sarré et Julie Birman, bientôt rejointes par Manuel Charpie. Ce qui nous attend, c'est notamment ce visage du grand masturbateur peint par Salvador Dali en 1929. Grande toile qui fait écran à cet amour fou dont le surréalisme conserve intacte la puissance d'ébranlement. Mais dans cette émission, nous chérissons ce vilain défaut qu'est la curiosité. Alors, nous irons aussi voir ce qui se cache derrière cet écran. Car là, les femmes ne sont pas que des muses, mais des créatrices, des poétesses et peut-être même des alchimistes. Alors, allons y voir, c'est maintenant sur France Culture.
Bon, nous parlions de l'amour, Salvador Dali. Vous êtes capable d'aimer plusieurs fois?
Ah, moi, j'ai jamais aimé... Absolument personne, à part ma femme et moi, j'ai jamais aimé personne.
Quel est votre style de femme?
Mon style de femme, c'est naturellement galant, que il vaudra, comme je vous ai dit, 6 millions de dollars.
Gala et les dollars, ben voilà. Le sort en est jeté. Marie Sarré, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes attaché de conservation au Centre Pompidou et commissaire avec Didier Ottinger de la grande exposition Surréalisme qui a débuté cette semaine et que vous pouvez voir jusqu'au 13 janvier 2025. Ça commence très très bien.
Hein. On est ravis, en effet, ça commence plutôt bien et il fallait bien ça pour le centenaire. On n'a pas tous les jours 100 ans et on espère que cette exposition va renouveler le regard qu'on porte depuis un certain temps sur le surréalisme.
Elle est formidable, on va le redire. Bonjour Julie Birman.
Bonjour Patrick.
Vous êtes journaliste et scénariste de bande dessinée. Vous avez publié Drôle de femme avec Catherine Meurice et avec Clément Oubrery, un Pablo en 6 volumes, c'est Pablo Picasso. Et Dali, lui, a droit à 2 volumes pour l'instant, mais il y en aura un troisième. Le premier, toujours chez Dargo, intitulé Avant Gala. Et le second, paru cette année, Gala. Vous le supportez encore, Dali? Malgré tout le cirque, hein.
C'est un clown extraordinaire. Il me fait beaucoup rire. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Et je pense qu'il a une dimension universelle qui ne s'épuise pas.
Alors, avant Gala, et puis ensuite, après Gala, bah, c'est Gala, justement. Et ça, ce moment-là, c'est 1929. C'est dans la pliure, en fait, entre le premier et le deuxième volume de votre bande dessinée. Et le tableau dont on doit parler ensemble, ben, il est dans le pli. Alors c'est ce grand masturbateur, on va essayer de l'imaginer ensemble, de fermer les yeux. Et c'est de ça dont il s'agit. Hein. C'est un homme qui ferme les yeux. Une grande toile, Marie.
Oui, en effet, c'est une grande tête cireuse, dit Dali. Une forme molle, une forme en putréfaction. Un profil qui tient en équilibre pratiquement sur son nez et qui a les yeux clos. Et vous le disiez, les yeux clos, évidemment, c'est ceux qui mettent la raison au sommeil. Et c'est bien sûr une iconographie, un motif qui va revenir très régulièrement chez les surréalistes.
On est sur une plage, disons, Marie, et on voit une lumière éclatante. D'ailleurs, on la voit très bien au musée. Les couleurs sont saisissantes. Le bleu, c'est le bleu de Cadaqués.
Oui, et alors Dali, c'est sa tête comme ça, cireuse. Alors moi, j'ai pas trop l'impression qu'il est en putréfaction, mais il y a plutôt en dessous de lui une sauterelle qui, elle, a des fourmis. Et oui. Elle, donc du coup, c'est étonnant parce que la sauterelle, elle a l'air totalement intègre. Et en même temps, il y a ces fourmis qui voudraient être le symbole de la putréfaction. Mais en fait, il n'y a pas ce côté dégoûtant. Donc c'est ça qui est un peu étonnant, c'est comme s'il voulait le suggérer.
Il y a cette sauterelle qui s'accroche à Dali et il a dit à de nombreuses reprises qu'il avait une phobie des sauterelles et que lorsqu'il était enfant, ses camarades d'école lui jetaient des sauterelles au visage et que c'était...
Ah ça c'est aussi dans votre bande
oui.
dessinée, hein, Julie
Oui, alors il a une phobie des sauterelles parce qu'en fait elles sautent à un moment inopiné. Et là aussi dans le tableau, la femme a aussi les yeux fermés. Et moi j'entends une sorte de musique de Wagner dans ce tableau parce que pour moi il est très musical, il n'y a que des courbes comme ça. Et c'est comme si en fait aussi dans ce grand masturbateur, il fermait les yeux de tout le monde. Les formes d'arômes sont aussi comme si c'était des formes de sommeil. Et en fait justement pour que rien qu'il n'ait pas prévu, lui, dans son sommeil, ne puisse surgir. Donc ici, il voulait se prémunir de quelque chose qui pourrait...
Je vous arrête, la femme, là, je ne la vois pas. Elle est où, la femme ? Là, on parle effectivement d'un dormeur qui est planté comme un roc. Et d'ailleurs, c'est aussi un rocher.
Il y a ce profil, par une silhouette de tête, une femme, les yeux clos, en effet, un buste, qui est emprunté à un tableau qu'on connaît bien, qui est Beata Beatrix, un tableau de Dante Gabriel Rossetti, qui est à la Tate Britain, à Londres, et qui s'apprête à faire une fellation à un homme dont on discerne que les jambes.
Alors, on ne sait pas.
Ça, on ne sait pas, en fait.
On ne sait pas, et justement, c'est ça, c'est le grand truc de Dali, c'est l'amour inassouvi. Et alors, c'est pour ça que pour moi, c'est du Wagner, c'est-à-dire c'est de la musique sans résolution. Rien n'est résolu, tout est suggéré, c'est possible, mais comme tout le monde ferme les yeux, il n'y a pas d'action qui va surgir. Mais il y a cette espèce de crainte, et si cette femme, pour moi, quand je vois ce tableau, et si cette femme ouvrait les yeux, et si elle faisait quelque chose à ce caleçon d'homme.
Oui, avec pour l'instant, il n'y a qu'un caleçon une pierre un peu grisâtre.
Voilà, et donc tout est possible.
Alors attendez, sur cette pierre, parce que justement ça m'intéresse, on va dire que sa peau est veinée, mais veinée comme pourrait l'être un marbre aussi, veinée de bleu. Et ça, Julie, il y a quelque chose qui, dans votre bande dessinée, le ramène à un trait biographique. Le moment où, au Grand Hôtel de Madrid, il voit des femmes aux aisselles bleues et il en est bouleversé.
Oui. Alors, c'est sa grande découverte parce que quand il est... Enfin, c'est un provincial qui arrive à la capitale et avec ses copains qui sont Buñuel et Lorca, il va sortir et il va aller dans des endroits chics et il va dans un club de jazz. Et en descendant dans ce club de jazz, il y a une femme qui lève le bras pour héler un garçon. Et là, il voit pour la première fois de sa vie une aisselle rasée. Et en fait, c'est un choc absolu pour lui. Et il décide de changer de look. Il va se couper les cheveux, il va se gominer comme les beaux garçons de l'époque pour pouvoir conquérir une femme à l'aisselle rasée.
Mais alors, restons sur le tableau.
Bleuté.
Vous parlez de la sauterelle. Sous la sauterelle, Marie, il y a un homme qui étreint une femme dont on ne sait pas très bien si elle est pétrifiée ou putrifiée, si elle est effectivement en train de se transformer en charogne ou en statue, c'est ça ?
Absolument, il y a ces deux silhouettes qui sont minuscules par rapport à cette tête absolument monumentale qui occupe presque l'essentiel du tableau. Et comme souvent chez Dali, l'œuvre est tout de même très biographique et il n'est pas avare d'exégèse sur son œuvre. Et lui-même,
ça,
comme des commentateurs...
C'est de la chair à psychanalyse, oui.
Évoque la mort douloureuse de sa mère. Donc voilà, ça peut évoquer en effet le couple parental. Et évidemment, Dali est très amateur de théorie freudienne. Et l'image du père, notamment, apparaît à de très nombreuses reprises dans son œuvre.
Et des insectes, et des œufs, et un hameçon, et des cils en forme de...
Oui, et Julie le disait, c'est un rhum, en effet, dont le pistil est dressé. Au milieu de la poitrine de cette femme.
Et cet homme seul, à gauche du tableau, sur la plage, On dit c'est Paul Éluard et Solé, puisque ben, si c'est Galin, Galin était sa femme.
Alors ça, je ne sais pas si c'est Paul Éluard et Solé. Il peint ce tableau, justement, il commence à peindre tous ces tableaux avant d'avoir rencontré Gala. Il va les finir après avoir rencontré Gala. Donc ensuite, on ne sait pas. Il y a un peu de mystère. Une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas encore rencontré de femme physiquement. Il a 25 ans, Dali, quand il peint ce tableau, et il est puceau.
Juin 1929, j'ai 25 ans et je suis puceau, sinon tout va bien, dit-on dans votre
bande dessinée. Absolument. Mais quelques mois avant, il a rencontré Gala, puisqu'il la rencontre en mars, lorsqu'elle vient lui rendre visite à Cadaqués avec ce poète qui est Éluard et qui est alors son mari.
Dans La vie secrète de Salvador Dali, vous aimez beaucoup ce livre.
Oui, c'était vraiment une découverte fantastique et je pense que c'est un des grands chefs-d'œuvre de Dali.
C'est 1942.
La vie secrète de Salvador Dali. Voilà. Il l'écrit aux États-Unis et il revient sur sa vie il est hilarant ce livre et il est d'une grande sincérité en fait et c'est ça qui est très touchant chez Dali.
Sincérité parce qu'en même temps il construit sa
Oui mais en fait il construit son délire, c'est ensuite pour rentrer à l'intérieur de sa psyché et de son fonctionnement, c'est un témoignage unique. Il y a aucun équivalent, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui décrivait avec une telle précision et avec un tel talent comment il fonctionne.
Alors, voilà ce qu'on lit dans La vie secrète de Salvador Dali. Il y avait tant de cuisses de femmes dans Paris et pas une ne venait me retrouver dans le lit où je m'écroulais seul, sans penser, avant de m'endormir. Je ne négligeais jamais un court entretien avec le catholicisme. Il y a évidemment cette dimension, là également, Marie, de l'imagerie religieuse hein, dans toute l'œuvre de Salvador Dali.
Oui, c'est le cas. Et d'ailleurs, ce femme qui a emprunté à cette œuvre pré-raphaélite en est encore un témoignage.
Alors, on écoute justement ce que Dali disait de Gala, c'était à la RTF en 1961.
Il y a deux choses que j'aime le plus au monde. L'une, c'est mon épouse Gala, et l'autre, l'or. Ma première vraie rencontre, j'ai ouvert la porte de ma maison de mes parents et Gala était déjà nu derrière la porte. Alors tout de suite, je me suis formé une espèce de mélange d'excréments de chèvre, parce que les excréments de chèvre, ça m'excite beaucoup sexuellement, alors je pensais que ça allait exciter Gala la même chose. Gala représente exactement l'équilibre classique de ma vie sans laquelle j'aurais devenu vraiment fou. Je n'ai jamais dans ma vie fait l'amour avec quelqu'un d'autre que Gala.
Jamais, jamais, jamais.
Gala m'a totalement crétinisé dans le sens de m'inspirer continuellement ma vie et mon œuvre.
Dans votre travail de scénariste, Julie Mubirman, vous faites au fond avec Dali ce qu'il a fait avec Gala, c'est-à-dire que vous voyez ses œuvres, vous l'écoutez et vous l'imaginez.
J'avais jamais vu les choses comme ça, mais moi, ce qui me sidère toujours quand je l'entends, c'est parce qu'en fait, il est très facile à imiter. Et pour moi, pour le coup, il n'a pas du tout sa vraie voix, comme on disait la sincérité avant. C'est-à-dire que c'est très facile de parler comme Dali. Tout le monde peut le faire. Mais en revanche...
Plusieurs le faisaient dans le film
dans
de
le
Quentin.
Film, voilà. Mais ouais. C'est assez facile à faire, en fait. Mais moi, je suis très mauvaise actrice. Et alors qu'en fait, et sa façon de re-raconter, il se met en scène et tout ça. Mais dans le bouquin, et ça, c'est assez intéressant, il raconte vraiment cette rencontre où il s'est enduit de crottes de bigue avec de la colle de poisson et tout, parce qu'il est complètement paniqué, et il le fait vraiment. C'est en ça que pour moi, c'est d'une grande sincérité de ce bouquin. Et aussi, à chaque fois que je l'entends, je vois Buster Keaton, et je pense à Lorca. Et ce qui est fou aussi, c'est que donc c'est un clown, tout ce qu'on veut, mais il a quand même une grande fidélité aux grandes passions de sa vie. Donc, il parle de Gala, il parle jamais de Lorca, Par exemple, les fourmis qui sont sur le grand masturbateur, elles sont dans le chien andalou. Mmh. Et en fait, c'est le ping-pong qu'il fait avec Buñuel. Et au départ, ils essayent chacun de raconter leur rêve. Et lui, c'était son rêve. Il y a l'homme à la main coincée dans le film. Et il y a des fourmis qui surgissent. Et c'est la première fois qu'il y a des fourmis dans sa tête. Et ensuite, elles vont aller dans toute son œuvre tout le temps. Donc, c'est en fait un être qui a une grande fidélité à lui-même, en dépit de tout son cirque.
Alors justement, Marie-Sarré, là, on parle du chien andalou, c'est l'année 1929, et pour essayer de défolkloriser, en somme, ce personnage qu'il s'est lui-même construit, oui, on peut aussi réexpliquer ce que c'est que la crise de 1929. C'est comme ça que Georges Sebag, dans le catalogue, le très beau catalogue de cette exposition, évoque cette année. C'est le second manifeste du surréalisme qui est publié dans ce qui sera le dernier numéro de la Révolution surréaliste. Et cette révolution est en train, en somme, de dévorer ses enfants. Hein, il y a les premières exclusions, maçons, soupeaux, Vitrac, Desnos. Et j'ai l'impression qu'il y a Georges Bataille joue Dali et Buñuel, d'ailleurs, contre les autres et fait un coup, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, on est toujours dans cet après-coup parce que Dali s'identifie au surréalisme, c'est justement quelque chose qui date de 1929.
Absolument, oui. Cette année 1929, elle est décisive pour Dali, on l'a dit, parce qu'il rencontre Gala. Il est exclu du domicile familial. Il va avoir sa première exposition personnelle à la Galerie Gomans à Paris. Mais elle est également décisive pour le mouvement surréaliste. Vous l'avez dit, d'abord du fait justement de l'arrivée de Dali, puisqu'il va doter le surréalisme d'une méthode nouvelle qui s'appelle la paranoïa critique. Jusque-là, le surréalisme, qui était un mouvement des sens littéraires essentiellement, fondé par des poètes, s'était appliqué à trouver un égal plastique à cet automatisme, en l'espèce des dessins automatiques, en l'espèce des frottages de Max Ernst, en l'espèce des grattages de Max Ernst notamment, et des peintures de sable d'André Masson.
Mais ça, c'est le premier manifeste, c'est 1924.
C'est 1924, et en effet, le premier automatisme plastique. Mais en arrivant à Paris, Dali va doter le surréalisme d'une méthode nouvelle, et cette méthode, c'est la paranoïa critique, c'est-à-dire la mise sur le papier, la matérialisation du rêve, du fantasme, avec cette peinture justement très réaliste, très virtuose, qui fourmille de détails et de préciosité. Ouais.
On va écouter ce qu'il en dit, puis on revient.
Très bien.
La célèbre méthode paranoïa critique, il a la vertu que c'est une méthode que j'ai inventée il y a maintenant plus de 35 ans, et malgré qu'il fonctionne à merveille, encore aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas en quoi elle consiste.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Bon, d'accord, il en parle, mais il n'en dit rien. Donc, reprenons Marie-Sarré. Qu'est-ce que c'est, en fait, vraiment, que cette nouvelle
méthode ? Cette
paranoïa critique,
c'est élever le rêve au rang de méthode. C'est illustrer le rêve dans tout ce qu'il a de plus merveilleux. C'est mettre la raison en sommeil et arriver à peindre ce fantasme onirique notamment.
Et qu'il n'y ait plus de frontières finalement entre le rêve, la réalité, le passé, le futur.
Ça, c'est un principe auquel sont astreints en effet nombre de surréalistes. Et puis vous le disiez aussi, cette année 1929, c'est celle du second manifeste, celle qui fait entrer le surréalisme dans une sorte de phase résonante. Et là encore, Dali n'y est pas pour rien. Essayer de prendre de la distance avec cette premier automatisme en justement ralliant le surréalisme à une sorte de méthode, à une sorte de principe. Et puis, vous en parliez aussi, Georges Bataille, qui fonde cette revue Documents en 1929.
Ça, c'est autre chose, parce que c'est un dialogue avec l'ethnologie.
Absolument.
Que d'ailleurs, l'exposition à Beaubourg compte très bien, admirablement. C'est les ailleurs, c'est autre chose.
Mais c'est pas tout à fait éloigné, puisque dans ce document, notamment dans cette revue document, Georges Bataille va donner une définition, va écrire un dictionnaire, et parmi ces termes, Il y a celui d'informe. Et évidemment, on est ici avec le grand masturbateur en plein dans cette question de la forme. Et ce qui passionne Bataille dans la forme, ça rejoint la question de la putréfaction, c'est justement l'homme qui est cet être intellectuel et aussi celui qui est capable des pires horreurs et c'est qui ça. Est finalement un amas d'organes et de boyaux. Et là, ça rejoint...
On est en 1929.
Absolument. Et là, ça rejoint évidemment Dali.
Oui. Et Julie Birman, alors vous êtes scénariste de BD, donc il faut que vous fassiez une intrigue avec tout ça. Et dans le dernier tiers, en fait, du deuxième volume, bah justement, on voit le grand... masturbateur qui arrive, qui s'invite sous donc la plume ou le pinceau magnifique de votre dessinateur Clément Aubry, et c'est à l'occasion d'une discussion entre Breton et Aragon, d'une discussion dans Paris nocturne, et ils se disent bah, quelque chose qui va pas quand même dans notre poésie finalement. Bah, justement, de cette première manière, nous, on a besoin des mots quand, je cite, Dali s'est ramené en entier ses délires dans le cadre de sa toile.
Oui, moi aussi, au début, je ne comprenais pas trop ce que c'était la paranoïa critique. Et puis, à un moment, j'ai eu comme ça... Parce que dans la bande dessinée, on ne peut pas s'abriter derrière les mots et des concepts un peu compliqués. Et souvent, en plongeant dans le surréalisme, je suis allée visiter des contrées un peu fumeuses. Mais alors, ça m'est apparu quand je me suis dit, mais en fait, voilà, il est à la fois le fou et son psychanalyste. Mmh. C'est-à-dire que, et c'est ça aussi le tableau, c'est que ça donne un cadre, donc c'est le délire paranoïaque, où il se laisse complètement aller, mais en fait, en même temps, il se donne un cadre. Et en fait, il y a cette espèce de dualité entre le délire et le cadrage, et je trouvais que ça, c'était passionnant. Et c'est vrai que Dali, parce qu'en fait, Dali se sert des surréalistes, mais les surréalistes aussi se servent de lui, c'est-à-dire qu'ils sont quand même dans un moment d'essoufflement où ils sont toujours en train de s'engueuler, où Breton a beau raconter que le surréalisme, c'est tout y est permis, il est en fait, on le surnomme le pape, et il est toujours en train d'exclure et d'excommunier ses amis.
Ce qui n'est pas tout à fait juste, mais ça, on y reviendra peut-être.
Oui, on y reviendra, mais en attendant...
C'est quand même un groupe minoritaire, ils sont toujours en train de s'engueuler, personne ne les connaît, ils sont assez prétentieux, et en fait, ils ont un moment assez d'essoufflement, et ils ont besoin d'un
premier
grand
essoufflement.
Ils ont besoin d'un renouvellement, et Dali, par sa jeunesse, leur apporte ce souffle nouveau.
Le 11 mars 1972, Arlette Dave, pour France Culture, mettait en son un texte que Salvador Dali avait écrit sur le grand masturbateur. C'est un objet radiophonique extraordinaire, on l'écoute.
Le soir était encore peu avancé.
Au bord des grandes escalières d'agate, fatigué par la lumière du jour. Qui durait depuis le lever du soleil, le grand masturbateur, son immense nez appuyé sur le parquet, ses énormes paupières closes.
Mangé par d'affreuses rides. Encore trop lumineuse, tandis que la mandrague, durcie, de l'énorme sauterelle, agrippée, immobile, collée depuis collé contre elle.
Depuis 5 jours, et 5 nuits.
Depuis 5 jours, et 5 nuits.
Tôt, l'amour.
J'étais en train de torer le problème central de ma vie, ce taureau de mon désir qui allait se planter en face de moi d'un instant à l'autre et me mettre en demeure de le tuer ou d'être tué, lit-on dans La vie secrète de Salvador Dali. Alors justement, ce grand masturbateur, le visage du grand masturbateur dans l'exposition que l'on peut voir au Centre Pompidou jusqu'au 13 janvier 2025 et dont vous êtes la co-commissaire, Marie Sarré, bah, c'est un labyrinthe qui s'enroule autour de ce tambour central où est le manuscrit du premier manifeste. Et ce tableau se trouve dans la salle Les Larmes des Roses, justement, on parlait de Bataille.
Georges, oui. Bataille, en effet.
Une salle déconseillée aux mineurs, d'ailleurs, j'ai vu. Hein, y a
pourtant, il n'y a pas tant d'horreur.
Ah bah, j'ai trouvé que non. En fait, j'ai trouvé le Centre Pompidou bien prudent. Et on voit des objets. Donc, c'est ça qui est... Essayons de décrire l'environnement, le lieu où, oui, aujourd'hui, il est évidemment conservé à Madrid, hein, au musée Reina Sofia, mais là, vous l'avez mis en bonne compagnie.
On a essayé, en effet, cette section Les Larmes des Roses, c'est en réalité divisé en 2 salles. Mmh. Une première où on retrouve ce grand masturbateur. On est très reconnaissant au Reina Sofia, parce que on sait que c'est une chance exceptionnelle de l'avoir sur nos murs, qu'il est très rarement prêté. C'est amusant parce que c'est pas un grand tableau, mais il est assez monumental et assez écrasant. Puis l'accompagné du amoureux...
C'est 1m50 sur 1m10 à peu,
oui,
près.
Oui, hein, exactement. Ouais. Puis l'accompagné de Picasso, de Picabia, d'œuvres de 1925 pour Picasso, donc des œuvres plutôt contemporaines, et de cette poupée de Hans Bellmer au centre de la salle.
Oui, et puis aussi quelque chose qui m'a frappé, un objet méchant de la poétesse Joyce Mansour. Vous pouvez le décrire ?
Deuxième salle, en effet, il y a notamment une sorte de cabinet de curiosité qui renvoie à la crypte des fétiches que Mimi Parent, une artiste des années 50-60, avait réalisé dans l'exposition Eros, cette, oui, exposition surréaliste à la Galerie Cordier en 1959, où elle avait placé comme ça dans des niches plusieurs objets. Donc c'est ce qu'on a essayé de reconstituer dans l'exposition. On y trouve notamment les objets à fonctionnement symbolique de Giacometti, de Dali, notamment l'objet à fonctionnement symbolique de Gala, avec son soulier. Et puis, quelques objets méchants de, oui, Joyce Mansour, cette poétesse égyptienne.
Magnifique, dont vous reproduisez quelques vers.
Dont on reproduit les vers, en effet, et dont on montre deux ouvrages, Cri, de 1955, et Déchirure, de 1953, Déchirure de 1955. Avec cette poésie, voilà, très érotique, très incandescente, et ces objets qui sont en réalité des balles de mousse plantées de clous, qu'elle offrait à ses amis.
Mais là où, évidemment, on commence à passer de l'autre côté des images ou de cet écran du désir, c'est que dans cette salle, et cette seconde salle des Larmes d'Eros, eh bien, vous faites justice aux poétesses, aux créatrices. C'est-à-dire que les femmes ne sont plus que seulement des muses, mais des autrices de plein exercice.
C'est essentiel, pardon.
C'est très important, parce que là, il faut dire que l'importance de cette exposition, c'est que ça repeuple le surréalisme, d'abord du point de vue mondial, et puis aussi du point de vue du genre.
C'est essentiel de rappeler que l'érotisme, la sexualité n'est pas l'apanage des hommes, et qu'un très grand nombre d'artistes, et d'artistes féminines en particulier, se sont appropriées cette question de la sexualité, cette question de l'amour, qu'il soit fou chez Breton ou qu'il soit sadien chez Bataille.
Il y a une très belle œuvre de Bona de Mandiargues.
Absolument,
qui s'appelle
il y a une œuvre de Bona de Mandiargues. Bona était mariée à André-Pierre de Mandiargues, un des poètes surréalistes. Et dans les années 70, elle commence une série d'œuvres avec des chutes de tissus. Et elle réalise notamment des œuvres qui représentent des escargots. Mmh. Et l'escargot, c'est un motif qui la passionne parce que c'est un être androgyne. C'est un être qui rassemble à lui seul les deux sexes. Et ça, c'est que ce soit l'arbre ou l'escargot ou d'autres insectes, c'est une iconographie qui passionne beaucoup d'artistes et d'artistes femmes en particulier.
C'est une œuvre de 1970, donc on est vraiment à la fin de l'exposition, puisque normalement elle se termine avec la mort de Breton. Mais là, justement, ça dépasse un peu. On dépasse l'histoire sainte du surréalisme.
C'est juste, mais Bona, en effet, fait partie du groupe surréaliste en tant que tel, autour de la figure de Breton. Mais voilà, rappelez que c'est que la sexualité n'est pas l'apanage des artistes masculins. Et beaucoup d'artistes, même avant elle, se sont intéressés à cette figure de l'androgynie, c'est-à-dire le retour à un âge où les sexes étaient indifférenciés. Et
ça, c'est quelque chose d'important. Qui parlait merveilleusement bien de cette question de la déflagration de l'amour, c'est Annie Lebrun. Annie Lebrun, elle avait fait pour l'exposition de 1991 de Beaubourg sur André Breton un premier texte très beau qui vient d'être réédité sous le titre « Qui vive ? Considération actuelle sur l'inactualité du surréalisme ». Et j'y lis ceci. « C'est peut-être le moment de profiter du grand bruit fait autour de ce centenaire pour se réapproprier subrepticement quelques-unes des armes qui vont nous être montrées désamorcées et réduites à l'état d'œuvre d'art parce que il s'agit justement de la puissance de l'amour. Écoutons-la.
Il me semble de plus en plus, même si c'est une position minoritaire, que l'amour reste le seul moyen dont nous disposons pour accéder à la souveraineté. C'est le seul moyen dont nous disposons pour échapper à la solitude et pour conjurer la solitude humaine. Et aussi, à partir du moment où l'étreinte poétique commence, alors le monde n'a plus prise pour vous. Et c'est presque en tant que, qu'aspect positif d'une révolte absolue qui m'a semblé qu'il faut par tous les moyens essayer de défendre ce qui se passe là et qui est quand même toujours, qui est toujours possible pour chaque personne.
Je me suis demandé dans quelle mesure vous n'aviez pas été marqué par les très grands livres de Breton sur l'amour, L'amour fou, Nadjar, Candicette.
Sûrement, ouais. Sûrement, parce qu'en plus c'était quand même un moment vers les années 60 où la pensée sartrienne était dominante, où il y avait une dépréciation justement du rapport amoureux. C'était quand même, il semblait que Breton était le seul à défendre cette position, qui, à mon avis, qu'on pourrait rattacher à tout un mouvement de la pensée occidentale qu'on pourrait appeler une sorte d'hérésie amoureuse, qui est une pensée de la réconciliation, s'opposant justement à toutes les idées sur l'amour malheureux, etc.
Oui, ce que dit Annie Lebrun et qui est passionnant, c'est que le surréalisme,
Marie-Thérie,
ce n'est pas ce qui est figé, c'est justement cette question cosmogonique, cette question de la naissance, de l'émergence de la vie, et c'est de fait pour ça que les surréalistes ont placé l'amour au cœur de leur projet surréaliste, c'est ce symbole de la vie émergente.
Et vous, Julie Birman, dans votre BD d'Ali, évidemment, cette question, elle est centrale, pas seulement pour ce qu'on a compris au début, d'accord, c'est rigolo, c'est le petit masturbateur, c'est le puceau à 25 ans, mais y a une, ensuite, après, il y a quand même une puissance de l'amour qui vient tout balayer.
Alors, c'est étonnant, parce qu'en vous entendant parler, moi, je sens une sorte de révolte adolescente en moi. J'ai envie de dire, mais enfin, mais j'ai envie de... Vraiment, c'est assez violent ce qui se passe. Parce que pour moi, il y a vraiment ce truc-là du surréalisme. C'est vraiment des adolescents un peu attardés, certes, mais qui ont cette... Bon, ils ont connu la Première Guerre mondiale, ils ont cette espèce de violence, ils veulent absolument casser tout carriérisme et tout ça. Très souvent, en fait, on s'endort en parlant du surréalisme. Et Breton est soporifique, et là, moi, je m'endors. Et en fait, quand j'entends les gens parler de l'amour et tout ça, et ce que je trouve formidable chez Dali, que par ailleurs, je critique beaucoup, En mon fort intérieur, c'est en fait son actualité et son efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit le grand masturbateur avec justement cette espèce de non-résolution, on revit ce que c'est que les terreurs adolescentes avant d'avoir connu une femme, toutes les questions qu'on se pose et qui sont informulées, qui sont pas dans les mots, qui sont très violentes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est assez stupéfiant, c'est que Dali, au fin fond du bush australien, on le connaît. Breton et toutes les petites querelles, non. Mais moi, je me suis intéressée à toutes ces querelles. C'est aussi marrant, mais ouais. Ces querelles d'ados, franchement, quand il s'engueule avec Desnos et Prévert et que ils vont aller en douce souffler le nom de Mal d'Aurore pour un dancing et que Breton avec tous ses copains vont péter le dancing parce que c'est quand même totalement impossible d'appeler un dancing Mal d'Aurore qui est vraiment leur grimoire, leur territoire secret. Et les types, ils n'ont pas 17 ans.
Non, mais
ils en ont 25. Et toutes leurs blagues, potaches et tout ça. Et donc, pour moi, c'est ça surtout le surréalisme. Et ce n'est pas tout cette espèce de truc un peu poussiéreux qu'on met souvent dessus.
En même temps, c'est très banal, pardon, pour un mouvement de pensée ou un mouvement artistique de s'inventer ses précurseurs. Donc, il y a Lautréamont, il y a Lewis Carroll. Et d'une certaine manière, cette façon qu'a le surréalisme d'aller toujours plus loin dans le passé pour se légitimer. En 1929, par exemple, dans le dernier numéro de la revue La Révolution surréaliste, André Breton écrit cette notice amusante, enfin moi qui m'amuse comme médiéviste, « Millénaire du surréalisme, 929, mort de Charles le Simple ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Mystère, mais on me dit qu'on a encore une carte postale, toujours du philosophe Mathieu Pot-Bonneville, qui vient du centre Beaubourg, il va peut-être nous éclairer sur la question.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, au verso de cette carte postale, tu trouveras la reproduction d'un tableau conservé au musée Unterlinden de Strasbourg. Documenté à Colmar entre 1491 et 1497 et attribué à l'atelier de Urbain Hütter, il s'intitule « Le miracle de la résurrection des poulets rôtis ». Le motif iconographique en est emprunté à un épisode méconnu de la légende de Saint-Jacques le Majeur. Et le miracle évoqué par le titre s'y produit sous nos yeux, dans le quart supérieur droit de la toile. Là, conformément au code narratif en vigueur à cette époque, sont simultanément présents les états successifs de trois volatiles. En bas, ils sont dûment embrochés, plumés et rôtissant dans l'âtre, ce qui, je le note au passage, atteste d'une grande constance de la recette du poulet rôti à travers les âges. Plus haut, et au grand étonnement de la cuisinière, on les découvre tout remplumés de blanc, portant crête rouge et s'envolant hors de la cheminée, licence picturale qui ajoute discrètement un second miracle au premier en dotant les poulets d'une aptitude au vol qui leur donne des airs de colombe. Dans ses méditations sur le bon usage de l'anachronisme, Daniel Arras y a beaucoup insisté. L'histoire de l'art se laisse parcourir dans les deux sens. À ce titre, difficile, depuis 1924 et la parution du manifeste surréaliste, de ne pas voir l'onde de choc du surréalisme courir à rebrousse-temps, par exemple jusqu'à cette scène du XVe siècle dont elle vient enrouler les paradoxes, l'onirisme, l'humour noir, jusqu'à cet étrange mouvement immobile de poulet simultanément rôti et envolé. Pour reprendre la formule d'André Breton, c'est une explosante fixe volaillère. Mais je me demande aussi, à rebours, si ce miracle des poulets rôtis ne nous apprend pas quelque chose à propos du surréalisme lui-même. Se pourrait-il que, malgré ses vigoureuses protestations anticléricales, le surréalisme ait été le seul véritable art catholique du XXe siècle ? Non seulement parce que Breton y fut souvent comparé à un pape, mais par cette manière de déployer un extraordinaire répertoire de figures et d'artefacts, pas si éloigné de cette prolifération d'images et d'objets par où le catholicisme n'a jamais cessé d'excéder la sévérité théologique pour frayer avec l'animisme tout ce buissonnement de l'extraordinaire, cette théorie de saint, de reliques et d'encensoirs, de blessures et de guérisons, de visages s'imprimant d'eux-mêmes sur des sphères, comme les rêves se déposent dans l'écriture automatique. Cher Patrick, l'avantage de ces cartes postales, c'est évidemment qu'elles me permettent d'avancer les hypothèses les plus indéfendables sans avoir à assumer en studio aucune de leurs conséquences. Donc, je te laisse, j'ai un poulet sur le feu.
France Culture, allons y voir. Patrick Boucheron.
Oui, ben on ira voir. Ça aussi, assumer les conséquences de ces hypothèses hasardeuses. De toute façon, bientôt, Mathieu Pot-Bonneville sera aussi dans ce studio. Et bon appétit à ceux qui nous écoutent un dimanche comme ça, à l'heure du poulet rôti. Mais justement, oui, suivons Mathieu Pot-Bonneville dans sa suggestion, cette idée qu'on peut aller en avant, en arrière, dans le passé. Vous avez tenté l'expérience, Julie Birman, dans votre bande dessinée, en suivant Dali au Prado. Et qu'est-ce qu'il voit comme tableau qui peut-être peut inspirer le visage du grand masturbateur?
Alors,
des tableaux anciens.
Dali, quand il est tout jeune étudiant, il passe tous ses dimanches au Prado. Alors, il y a les Ménines de Velázquez, mais il y a aussi le Jardin des Délices de Bosch. Et le Jardin des Délices de Bosch, c'est un triptyque où il y a le paradis. Et dans le triptyque, le panneau de gauche, on voit, il y a Jésus, il y a Adam et Ève, et puis on voit une mare, et là, il y a un caillou. Et si vous regardez bien ce caillou, vous verrez qu'il y a un visage qui se dessine avec un œil en forme de limule, un œil fermé, et la queue d'une hermine qui forme une sorte de moustache. Et en fait, il allait voir ce tableau aussi souvent avec son ami Lorca, son premier grand amour. Et quand on recule un petit peu et qu'on regarde donc ce caillou, ce qui est stupéfiant, c'est qu'on voit en fait le visage de Dali, son profil.
Et une sorte de plagiat par anticipation. En
fait. Voilà. Et donc, c'est assez troublant. Et ensuite, ce qui est aussi encore plus troublant, c'est que ce profil se retrouve dans une vingtaine de toiles de Dali de cette époque. Et c'est comme s'il avait transformé ce caillou en caillou. Parce qu'en fait, le grand masturbateur, c'est une sorte de caillou de Cadaquès, mais qui vient de Jérôme Bosch.
En caillou ou en pierre philosophale.
Mais parce c'est que, déjà.
En fait, justement, dans ce jardin des délices d'Alien, il y a sans doute Bosch, mais il y a aussi des sorcières. Marie Sarri, vous avez publié un très beau recueil de textes de Leonora Carrington, Itel Colcun et Remedios Varo, aux éditions du Centre Pompidou, sous le titre Les magiciennes, surréalisme et alchimie au féminin. Il y a d'ailleurs une salle, la pierre philosophale. Et là, vous ouvrez quand même le regard vers, justement, des créatrices pas très connues, hein, il faut bien le dire.
Oui, c'est juste. Le surréalisme s'est beaucoup intéressé aux sciences ésotériques. C'est là où se conjuguent, selon lui, l'intuition et la connaissance. Mais pour nombre de surréalistes, ça restait un principe poétique. Mais en effet, quelques-uns et quelques-unes, en particulier d'entre eux, ont fait un pas de côté en étant de véritables initiés. Et c'est le cas de ces trois artistes, plasticienne, poète, écrivaine, notamment Itel Colcun, qui rejoint le surréalisme en 1939 et qui en exclut moins d'un an plus tard parce qu'elle est justement membre de ces sociétés secrètes.
Et Leonora Carrington également, qu'on va écouter.
The real work is done when you're alone.
Le travail se fait lorsque tu es seul, dans ton studio, et puis c'est tout. C'est avant tout avoir une impression de quelque chose, puis ça devient une impression que tu peux visualiser, et finalement, tu la réalises. C'est comme cuisiner, quoique cuisiner n'est pas chose facile non plus. Il m'est très difficile de porter un regard objectif sur ce que je fais, car si je regarde objectivement mes œuvres, je les décompose. Or, je ne veux pas faire ça. Je veux continuer à peindre. Tu dois suivre un autre type d'impression, laquelle je ne sais pas, mais c'est absolument nécessaire. C'est comme un dévouement à ce que tu fais, si tu préfères.
Leonora Carrington, avec elle on est toujours d'une certaine manière dans la cuisine, mais c'est la cuisine de la création. Et on est à Mexico, et elle a été ici. L'archive qu'on vient d'entendre, c'est la BBC 1996. Il y a d'autres de vos autrices qui ont été à Mexico.
Oui, tout à fait. En réalité, Carrington fait partie de ce foyer qui s'établit à Mexico dans les années 40, puisque Benjamin Perret, qui est anarchiste, n'a pas pu rejoindre les États-Unis et qui s'installe à Mexico avec sa compagne, qui est Remedios Varo. Et lorsque Perret, lui, rejoint la France libérée, Remedios Varo et Carrington font le choix, elles, de rester au Mexique avec d'autres artistes. Elles rencontrent les chamans mexicains, font des recettes magiques. Elles
s'y initient à la chimie. Effectivement, pour susciter des rêves érotiques.
Voilà, et on revient en effet à l'érotisme, puisqu'il y a cette fameuse recette de Remedios Varo pour faire un rêve érotique.
Un kilo de radis noir, trois poules blanches, deux fois de génisse, une brique.
Je n'ai pas testé, mais...
Deux pinces à linge, un corps. Et alors, il y a aussi ce qu'elle peint. Et je dois reconnaître que, en voyant avec le public cette formidable exposition, moi je suivais des deux adolescentes qui ont vu, alors là ce sont des figures alchimistes, évidemment ça peut faire penser à plein de choses,
elles
ont dit ouais
portrait.
Alors ça c'est stylé, elles ont dit ça, et évidemment c'est la figure de la sorcière, c'est-à-dire qu'elle nous ramène en arrière mais aussi en avant, parce que c'est une mythologie contemporaine effectivement aujourd'hui pour
le surréalisme est d'une extrême actualité. En effet, beaucoup de femmes surréalistes se sont appropriées cette figure de la sorcière, cette figure de la magicienne qui fait écho avec beaucoup de jeunes femmes aujourd'hui. Il suffit de lire le livre de Mona Chollet pour voir cette réhabilitation, la figure de la sorcière qui est complètement assumée aujourd'hui par le féminisme.
La sorcière qui est comme Dali chantée par Jonathan Richman en 2004 nous fait passer par la porte des rêves.
When I was 14, Salvador Dali was there for me. I was having nightmares all the time. But he was my guide to the dream world, to the dream world. He had the inside and outside feeling, above ground and underground at the same time. I am the terrifying skies. They were my guide to the dream world. My dream world, to my dream world. Okay, well, when I was 14 and depressed, Dali said freedom to me. I was having nightmares all the time. Oh, but he helped take me inside my dream world, my dream world, oh, my dream world. Yeah, well, I was 14. Salvador Dali was there for me. Well, I was 14. Dali opened doors for me to the dream world, to the dream world, to the dream world. Tell him.
Manuel Charpie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, directeur du laboratoire Invisu. Vous vous intéressez à quoi ? À la fripe, aux objets, à la photographie, voilà.
Et aux images ordinaires.
Aux images ordinaires. Et cette question du surréalisme aujourd'hui, ça vous fait penser à quoi ?
Eh bien, je crois qu'on peut rapprocher ça notamment de ce que produisent les intelligences artificielles. Et je voulais justement m'arrêter sur quelques images ordinaires, celles récoltées par un jardinier et artiste berlinois, un certain Isley, qui a collecté comme ça les images du programme agronomique Lurch pour Limbourg Ultra Resilient Crop Hybrids. Mmh. Il en a fait un livre, un portfolio en ligne, visible par tout le monde, et une exposition qu'on peut voir en ce moment aux Rencontres Photographiques d'Arles. Et le projet s'appelle New Farmer, et les images sont de prime abord assez réconfortantes. Elles montrent une Europe des années 50 dans les couleurs acidulées des premières diapositives Kodachrome, Les paysans du Hammerhof ont la peau rose, les champs de blé sont blonds, les cieux bleus et les choux verts.
Donc tout va bien.
Tout est à sa place.
Une robe de carte postale.
Exactement. Vous savez, quand les paysans étaient de vrais paysans.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, on voit ni ouvrières, ni ouvriers agricoles. Autant dire des images d'un monde pauvre mais digne, façon peinture hollandaise du XVIIe siècle, avec des meubles simples en bois massif, des assiettes blanches, du pain rustique sur les tables.
Oui, mais enfin, je vous arrête quand même, Manuel Charpie, parce que là, par exemple, ce que je vois sur cette nappe blanche, cette grosse, très grosse carotte, enfin, qu'est-ce qu'elle fait là?
Elle est un peu géante, oui. Effectivement. Et la légende nous apprend que c'est une table d'une ferme à Dengen, 1955, et la légende encore précise que ce sont les premiers résultats de la révolution mise en œuvre par les phytotechniciens du laboratoire Lurch qui commencent à se faire sentir dans toute la région. Plus loin, juste à côté, une photographie d'un enfant d'une dizaine d'années, parfaitement coiffé, tenant dans ses mains le fenouil de 10 kilos avec lequel il a gagné le premier prix du Kuma Giants Show à Limbourg en 1956. Vous l'aurez compris, ces photographies hallucinantes et légendées par l'artiste racontent la naissance de l'agriculture productiviste des années 50 en Europe occidentale.
À Limbourg, donc, c'est ça?
Oui,
et c'est où?
Mais ne cherchez pas sur la carte, ni la ferme du Hammerhof, vous trouverez un hôtel de luxe en Bavière, mais je ne crois pas que ce soit le sujet. Ces lieux existent, mais dans nos campagnes imaginaires, quelque part entre les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, dans des campagnes prospères où le printemps semble éternel. Et dans ce monde paisible, quelques aberrations inquiétantes. Un homme contemple, par exemple, satisfait des champs cultivés, et il a de quoi être satisfait, ses potirons pèsent à vue d'œil 200 ou 300 kilos pièces. Vous l'avez compris, il s'agit d'une série d'images produites par des logiciels d'intelligence artificielle.
Ah ben voilà. Ça s'appelle comment d'ailleurs ce logiciel?
DALL-E.
Ah,
étrange.
DALL-E, c'est ça?
Alors DALL-E, à la fois un hommage à ce grand peintre connu, comme vous l'avez dit, dans le monde entier, et puis l'évocation d'un robot qui s'appelle WALL-E. Mais je pense que c'est pas qu'une affaire, comment dire, cette parenté entre le surréalisme et l'IA, c'est pas qu'une affaire de nom. Le choix vient aussi de plusieurs éléments de parenté, on va dire. D'abord parce que si vous regardez de près, et j'y reviens, dans ces images, vous trouvez pas mal de bizarreries, d'étrangetés, et notamment dans ce projet donc de Bruce Easley, je crois que c'est un pseudonyme. Dans ce travail de Bruce Easley, cette expérience post-photographique, vous trouvez tout un tas de détails qui posent problème, comme des mains. Et vous savez que l'IA a beaucoup de mal à produire les mains, oui. puisqu'on a beaucoup de mal pour l'instant à codifier toutes les positions de nos mains. Et donc vous verrez un bureaucrate très sérieux avec des mains qui se confondent avec des pommes de terre, ou encore des fermiers qui traitent chimiquement leurs champs avec des gants acidois. Donc il y a une parenté évidemment dans ces bizarreries, dans ces détails qu'on a évoqués jusqu'à maintenant étranges. Mais ce qui est assez frappant dans ces expositions, devant cette exposition, c'est qu'on passe d'abord sans rien voir.
Oui.
Et ça me semble important parce que je crois que notre œil est trop mental, trop informé, trop idéologique. On croit assister à la naissance de l'agro-industrie et des OGM. Et puis, voilà, notre cerveau comble tous les manques de ces images. Lurch, je vous ai dit que c'était le nom de cette entreprise fictive, peut se traduire par déraillement, embardé. Et vous l'avez compris, ces images mettent en miroir les monstres de l'agriculture intensive avec les images elles-mêmes cultivées dans des fermes de données par des réseaux de neurones artificiels.
Ce sont des fermes qui sont assez prospères aujourd'hui, il faut quand même le reconnaître.
On considère, on a beaucoup de mal à évaluer, mais qu'elles produisent quelques dizaines de millions d'images chaque jour. Donc on est quand même dans un moment, un tournant qui date de 2022. Et depuis d'ailleurs cette période, des jeunes artistes travaillent sur ces générateurs d'images pour les questionner, mais aussi pour triturer notre inconscient collectif. Je pense d'ailleurs à un autre artiste qui s'appelle Sumboy Vrainon.
C'est évidemment aussi un pseudonyme.
Je crois. Et il proposait une exposition qui s'appelait « Il manque des images pour s'en rappeler ». C'était à Blois en 2023. Et il proposait des archives imaginaires de résistance à la colonisation. Résistance bien réelle, mais images manquantes et qui ne pouvait pas avoir été photographié.
Alors, je crois qu'on vous a vu venir, Manuel Charpie, on comprend bien les rapports entre ces hallucinations, cet hyper-réalisme et l'IA. Quand les images manquent, ben, c'est les IA... produisent des hallucinations. Mais il y a quelque chose aussi qui est en rapport avec le surréalisme, et on va peut-être terminer par là, c'est le rapport aux mots, finalement. Parce que l'IA, ça s'interroge en langage naturel. Il y a des indications, des prompts, comme on dit, qui sont aussi, d'une certaine manière, des injonctions poétiques.
Absolument. Et ça va ensemble, cette sorte d'esthétique photoréaliste, c'est-à-dire qui compile les images déjà produites, qui propose des séquences convenues. Je ne dirais pas que Dali est un peintre académique, mais on peut le dire. Et c'est un peu la même logique, c'est-à-dire proposer, à partir de prompts, des motifs oniriques, mais dans un rendu académique convenu. Et effectivement, ce qui est assez frappant, et notamment quand on visite l'exposition au Centre Pompidou, c'est la parenté autour de la place du texte. Dans l'IA, effectivement, toutes les commandes sont passées par des prompts, ce que les informaticiens appellent, et le terme est quand même génial, des instructions en langage naturel. Paradoxe certain. Et au passage, ces IA travaillent sur ce qu'on appelle des grands modèles de langage. Et quand on visite l'exposition sur le surréalisme, on a au centre le manuscrit du Manifeste de Breton, un peu comme une sorte de matrice linguistique, un peu comme le code source du surréalisme. Ça me semble assez intéressant qu'aujourd'hui revienne cette idée d'un art qui illustre du texte.
Et justement, alors on peut aussi donner un lien comme indication de faire telle image avec tel style. On lui demande, d'ailleurs. Et si on lui dit « Fais ça en surréalisme », qu'est-ce qu'il répond ?
Alors, je vais retourner la question. Quand choisir le style surréaliste ? Je vais vous citer la réponse d'une IA, dans le mode d'emploi d'une IA, qui est aussi un logiciel qui vend aussi un logiciel de retouche d'image. « Ce style se prête bien à la description des rêves ou des moments insolites de la vie ».
Voilà,
autrement dit, une version gentille et publicitaire du surréalisme. Et par bonheur, toute une génération de jeunes artistes, notamment des femmes, s'empare de l'IA aujourd'hui pour questionner cet imaginaire collectif, cette imagerie collective, pour rendre les choses un peu moins insolites et un peu plus inquiétantes et étranges.
Et la vraie question, c'est est-ce qu'il y a un style surréaliste ? Parce que André Breton le dit dès le manifeste, en dehors de tout principe esthétique, c'est que le surréalisme n'est pas un formalisme, c'est pas un dogme esthétique, et qu'il y a autant de surréalisme qu'il y a d'artistes surréalistes.
Et puis, je vais pas vous énerver, parce que là, on n'a plus le temps, j'ai libéré Birman, mais c'est vrai que l'IA produit des images assez moches, en règle générale, parce que hyper académique, ce qui était un peu le cas du surréalisme, quand même, des fois. Dali.
Alors, moi, ça m'évoque deux choses. D'abord, c'est la merveille. Pour moi, c'est un truc dont on n'a pas parlé là. Et c'est vrai que Max Ernst, il faisait des collages. Et en fait, et ça revient aussi à l'autre et à mon, avec la rencontre sur la... insolite sur la table de dissection. Et là, en fait, c'est qu'est-ce qui va surgir comme merveille. Et ce qui est étonnant, c'est que nous, peut-être, on est blasés aujourd'hui. Et l'autre chose qui était avec les mots, c'est que, par exemple, Dali, lui, il reprend l'Angélus, qui est aussi des paysans à l'heure de l'Angélus dans un champ de patates. Et lui, il va produire un délire. Et ce délire, ça va être de nous embarquer avec lui. Et on va penser avec lui que c'est le tableau le plus érotique de l'histoire de la peinture.
Merci Julie Birman, merci Marie Sarré, merci Manuel Charpie.
Je considère, et je suis d'accord avec André Breton, que je suis un peintre ex-surréaliste.
C'était Allons-y voir. Merci à vous trois. Les références de vos parutions et les dates de l'exposition Surréalisme sont évidemment à retrouver sur la page de notre émission, une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Grégory Wallon et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous.